franceinter.fr.
Bonjour. L'ONU fête cette année ses 70 ans. Créée sur les décombres de la SDN, qui fut impuissante à empêcher la Seconde Guerre mondiale, l'organisation semble aujourd'hui à un tournant de son histoire. La fin de la guerre froide, qui l'a longtemps paralysée, avait fait naître l'espoir qu'elle allait enfin devenir le lieu où l'ensemble des nations s'accordent pour préserver la paix mondiale. Mais après des échecs retentissants, comme en Bosnie ou au Rwanda, où elle n'a pu empêcher des massacres, l'ONU semble aujourd'hui plus que jamais paralysée par le jeu des grandes puissances qui dominent le Conseil de sécurité et possèdent un droit de veto. Elle agit sur des grandes causes sociétales comme le réchauffement climatique ou la propagation du virus Ebola, mais sur le terrain de la paix, elle ne parvient pas à juguler de nombreux conflits et reste impuissante face à l'interminable conflit israélo-palestinien. Faut-il alors réformer son fonctionnement, par exemple pour mieux tenir compte du poids des puissances émergentes comme l'Inde ou le Brésil? La question se pose, car si la relative marginalisation de l'ONU se poursuit, c'est la question de son utilité même qui peut surgir. L'organisation n'apparaîtrait plus alors que comme une bureaucratie parasite réunissant à New York un aréopage de fonctionnaires généreusement rémunérés. Ce sont toutes ces questions qui transparaissent au travers du reportage dans les coulisses de l'ONU que nous vous proposons ce matin. L'ONU, à quoi ça sert? C'est un reportage d'Aurélien Collet.
Interception, le magazine de la rédaction.
Il est 7h30 du matin, on est sur Madison Avenue, au cœur de Manhattan, c'est le quartier de Midtown. Des millions de New-Yorkais sont en train d'aller au travail et pas mal d'entre eux en chemin vont déposer leurs enfants à l'école. C'est le cas d'Aileen, qu'on va retrouver en bas de son immeuble, sur cette Madison Avenue. Aileen, elle est canadienne, elle travaille à l'ONU. Et comme beaucoup de fonctionnaires de l'ONU, eh bien, sa journée commence en accompagnant ses deux filles à l'école, mais à l'école de l'ONU.
Je m'appelle Aileen. Je vis à New York avec mes deux filles, Roxane et Nina. Tous les matins, on part ensemble pour l'école et ensuite je vais travailler.
Depuis combien de temps vous vivez à New York ?
C'est la première année. J'étais journaliste et je vivais à Montréal. J'ai eu un contrat temporaire au siège de l'ONU, donc je suis venue ici m'installer. J'ai regardé un peu les différentes écoles pour mes filles et j'ai pensé que l'école de l'ONU était la meilleure.
Pourquoi est-ce que vous avez choisi l'école de l'ONU ? Qu'est-ce que vous aimez dans l'école de l'ONU ?
J'adore le côté international, avec des élèves du monde entier. Il y a toutes les religions, beaucoup de cultures différentes, et je voulais que mes enfants profitent de cette ouverture, qu'ils ne soient pas exposés seulement à l'Amérique, mais aux cultures du monde entier.
Il y a à peu près 1500 élèves et 200 nationalités à l'école de l'ONU, mais contrairement à son nom, c'est une école privée, indépendante. Cela dit, la plupart des élèves ont des parents à l'ONU, et l'ONU couvre les trois quarts des frais de scolarité. Ça fait partie du contrat quand on est en poste à New York, avec une partie du loyer et des salaires de 6 à 12 000 dollars par mois non imposables. Mais on est à New York, l'une des villes les plus chères du monde.
Allez, je vous vois ce soir après le dentiste. Je vous aime.
Bye.
Salut.
So, let's walk.
Allez, allons-y. Une petite demi-heure avant que je commence le travail. C'est agréable, je marche le long de l'East River. Le siège de l'ONU est à quelques pâtés de maison.
C'est combien à peu près un an de frais de scolarité ?
C'est entre 32 et 36 000 dollars par enfant et par an.
Dollars.
Quand je suis venue m'installer ici, je pensais avoir un contrat permanent avec la prise en charge de 75% des frais de scolarité. Malheureusement, je n'ai pas eu le poste à plein temps, mais comme nous étions déjà installés à New York, j'ai décidé que j'allais investir dans leur éducation. C'est vraiment difficile, mais je ne m'achète pas de chaussures Manolo Blahnik ou de veste Chanel. J'investis dans mes enfants.
Qu'est-ce que ça change pour vous, en fait que vous ayez un contrat temporaire comme c'est le cas aujourd'hui ou que vous soyez intégré à l'ONU ?
C'est une différence financière. Avec un poste permanent, vous bénéficiez d'une aide pour la scolarité des enfants, ainsi que d'autres avantages comme la sécurité sociale ou la retraite. Et puis évidemment, vous travaillez pendant 12 mois, donc vous avez 12 mois de salaire au lieu d'être obligé de travailler en freelance la moitié du temps.
You think it would change a lot for you to become a fixed term? Ça changerait beaucoup pour vous de passer en CDI?
Yes, then maybe I can dream about
Oui, peut-être que je pourrais alors rêver de veste Chanel.
Okay, I'm off to work now. I've got to go in.
Voilà, je suis arrivée au boulot, il faut que j'y aille. Merci pour la discussion. À une prochaine fois. Bonne journée.
Bye. Okay.
Bonne journée.
Merci. Bye.
On a laissé Aileen entrer dans le siège de l'ONU. Elle va démarrer sa journée. Nous aussi, on va entrer, mais d'abord, le décor. On est au croisement de la 42e rue et de la 1ère avenue, juste devant le siège. Devant moi, il y a des drapeaux, les drapeaux des 193 États membres. Juste derrière, une esplanade et puis un énorme gratte-ciel massif avec sa façade en vitre bleutée. Je ne sais pas combien d'étages, comme ça, je dirais au moins une quarantaine d'étages. C'est le secrétariat de l'ONU, c'est le centre nerveux. Il y a à peu près 6000 personnes qui travaillent là, dans les différents départements, affaires juridiques, humanitaires, politiques, désarmement ou bien maintien de la paix par exemple. À la tête de ce secrétariat, il y a un secrétaire général, c'est Ban Ki-moon, sud-coréen. Budget annuel, 5 milliards de dollars. Et puis son rôle à ce secrétariat, eh bien, c'est tout simplement de mettre en œuvre, d'appliquer les décisions qui sont prises soit par l'Assemblée Générale, on voit l'Assemblée Générale de l'ONU légèrement sur la gauche avec sa coupole, ou les décisions qui sont prises par le Conseil de sécurité, on ne le voit pas de l'extérieur, mais il est situé exactement entre les deux buildings.
The 37th plenary meeting of the General Assembly is called to order.
I now give the floor to Mr. Anthony Banbury, Special Representative for Ebola Emergency Response.
Thank you, Mr. President, very much for the leadership that you have shown as President of the General Assembly on the matter of the Ebola crisis.
Il est 10h, c'est le début de la journée à l'Assemblée Générale. Les États débattent du virus Ebola, car l'ONU a créé une mission d'assistance pour les pays touchés par le virus. L'Assemblée Générale, c'est un énorme amphithéâtre, 100 mètres de long, presque autant de large et de hauteur. Une architecture digne de l'ère soviétique, avec d'un côté sa tribune, là où les chefs d'État et les diplomates défilent pendant l'année, et puis en face, un millier de fauteuils pour tous les États membres et leurs délégations. L'Assemblée générale, c'est censé être le Parlement mondial, là où tous les États sont représentés, avec chacun une voix. Égalité donc, mais en théorie, car les décisions que l'Assemblée générale vote, les États ne sont pas obligés de les suivre. L'Assemblée générale n'a pas beaucoup de pouvoir donc. Cela dit, c'est la caisse de résonance de la communauté internationale. C'est là où les pays du Sud font entendre leur voix, c'est là qu'ils font pression. C'est par exemple l'Assemblée générale qui avait donné à la Palestine le statut d'État observateur de l'ONU. C'était en novembre 2012. Sophie Louillot était là. C'est la chef des interprètes en français, l'une des langues officielles de l'ONU. Elle est dans les cabines qui surplombent la salle de l'Assemblée générale.
Quand Obama est là et que nous on est là, on est quand même relativement proches. On a toujours été au-dessus de tout le monde. Avant on était de l'autre côté de la salle d'ailleurs. Maintenant on est de ce côté-ci, nous, la cabine française. Mais vous pouvez imaginer quand cette salle est comble, mais comble, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un siège de vide et qu'il y a des personnalités qui viennent s'exprimer à la tribune, c'est très impressionnant.
C'est ici que vous aviez vécu la Palestine ?
Absolument.
The General Assembly is now voting on status of Palestine in the United Nations.
Moi j'étais de l'autre côté, c'était le siège de la Palestine était là-bas dans le fond et donc il y a eu un mouvement de foule extraordinaire autour de Mahmoud Abbas au moment du vote. Le résultat s'est affiché, il y a eu une montée de d'applaudissements. Enfin, c'était très chouette, très émouvant.
Opposed, 9. Abstentions,
J'avoue que ce sont des moments que je ne peux pas oublier. C'est vrai. On vit des moments tout à fait exceptionnels. Ce sont quand même d'éminentes personnalités de la diplomatie mondiale. Et on est là entre les deux et on se sent tout petit et très important à la fois. Voilà.
Obama, Mandela, Mahmoud Abbas. Ici, on croise tout le monde. On est là où ça se passe.
On est là où ça se passe. Et je pense qu'il faut remettre un tout petit peu les choses à leur place. L'ONU n'est pas une organisation qui existe pour résoudre quelques problèmes que ce soit. L'ONU est une organisation qui existe pour que les chefs d'État, pour que des négociateurs, pour que des individus qui représentent différents pays, différentes cultures, différentes nationalités, puissent se retrouver, se réunir, négocier, parler, avant que l'un d'entre eux n'ait la fâcheuse idée de donner un ordre qui pourrait avoir des conséquences désastreuses pour toute la planète.
D'année en année, on suit des réunions qui se répètent. On peut avoir aussi une petite frustration quand on est comme ça dans cette répétition.
La frustration, on la ressent souvent, il faut quand même dire ce qui est. De temps en temps, on se pose la question de savoir comment on peut être dans une salle dans laquelle on est en train d'interpréter un délégué de la Syrie qui dit « monstruosité sur monstruosité ». C'est comme ça que fonctionne la diplomatie, on est là pour ça. Donc là encore, est-ce qu'il y a des frustrations ? Oui, il y en a, comme dans tous les métiers de la Terre. C'est une organisation énorme, c'est une bureaucratie très lourde. Donc que ce soit en cabine, que ce soit lorsqu'on a des fonctions administratives, il y a des frustrations.
On souscrit aux déclarations prononcées par le représentant permanent de l'Iran et celui du
Koweït.
This is an important day for us all as we review the situation with respect to Iraq and its disarmament obligations under UN Security Council Resolution 1441.
Dans ce temple des Nations Unies, nous sommes les gardiens d'un idéal. Nous sommes les gardiens d'une conscience. Et c'est un vieux pays. La France d'un vieux continent comme le mien. The 7306th
meeting of the Security Council is called to order. The provisional agenda for this meeting is the situation in Libya. The agenda is adopted.
Il est 11h à New York et là on est vraiment dans le Saint des Saints. On est dans la salle du Conseil de sécurité, là où l'avenir de la planète est censé se jouer. C'est vraiment le cœur du pouvoir puisque selon la charte de l'ONU, le Conseil de sécurité est chargé du maintien de la paix mondiale, rien que ça. Alors pour ça, il peut voter des sanctions contre un État ou contre ses dirigeants. Il peut créer une force d'interposition, les fameux casques bleus. Et puis surtout, il peut autoriser le recours à la force comme en Libye en 2011. Tout ça, ça se joue ici, autour de cette immense table ronde avec 15 fauteuils pour les 15 pays qui siègent. Il y a les 5 membres permanents avec leur super pouvoir, un droit de veto, États-Unis, Russie, Chine, Royaume-Uni et France. Et puis à côté, 10 membres non permanents, élus tous les 2 ans, sans droit de veto. Ce matin justement, la séance porte sur la Libye et celui qui est en train de parler, c'est Philippe Berthoud, diplomate de l'ambassade de France à l'ONU.
Il y a des moments dans l'histoire où l'unité du Conseil se fait pour prévenir ou pour mettre fin à des atrocités qui choquent selon les termes du statut de Rome.
Lorsque on a une réunion du Conseil de sécurité, en réalité, toute la négociation s'est faite en général depuis plusieurs semaines auparavant. Et donc, la réunion est finalement juste la mise en scène de ce travail préparatoire. On travaille sur instruction de Paris. Paris nous donne un cadrage général. Et ensuite, c'est nous, sur place, qui adaptons la tactique de négociation. Chaque matin, on reçoit nos instructions. Et ensuite, on se retrouve en tout début de matinée autour de l'ambassadeur, toute l'équipe de la mission. Et ensuite, on part au Conseil où l'ambassadeur, son adjoint ou moi-même prononçons le discours qui a été préparé pour la France ainsi que le vote. Mais encore une fois, tout a été préparé avant et c'est vraiment là qu'est le cœur du métier et l'aspect le plus passionnant de ce métier.
C'est de la diplomatie internationale, il y a des alliances, il y a des points sur lesquels on s'entend avec d'autres États, où on s'entend moins. C'est-à-dire qu'il y a aussi un travail qui est fait à l'extérieur de la mission, en relation avec les autres membres du Conseil de sécurité ou d'autres pays.
Bien sûr, notre rôle de diplomate, c'est de trouver des terrains d'entente. Et chaque pays a ses intérêts nationaux à défendre, et nous aussi, évidemment. Et donc, on essaie de trouver des terrains d'entente. On n'y arrive pas forcément. Quand on n'y arrive pas, le Conseil est obligé de le constater. C'est le cas sur l'Ukraine, c'est le cas sur la Syrie, c'est le cas aussi sur le Proche-Orient, où tous ces trois dossiers sont bloqués au Conseil de sécurité, malheureusement. Mais pour autant, nous n'oublions pas que le Conseil de sécurité a énormément d'autres sujets sur lesquels il doit avancer, des crises qui, sans lui, seraient oubliées, ou alors des pays qui s'enfonceraient dans un chaos total. Et donc nous savons que si nous avons des sujets de désaccord avec nos partenaires, et notamment avec la Russie ou avec la Chine sur certains dossiers très médiatiques, nous travaillons relativement correctement avec eux sur beaucoup d'autres sujets, beaucoup d'opérations de maintien de la paix, sur lesquelles le Conseil a un rôle extrêmement important à jouer, et le Conseil est extrêmement attendu en tant qu'organe majeur des Nations Unies.
Sur des sujets très chauds qui sont au cœur de l'actualité, type Proche-Orient, Syrie, le grand public a toujours du mal à comprendre une certaine inertie de l'ONU. Les intérêts des États priment avant tout.
C'est de la diplomatie, effectivement, et donc on ne trouve pas forcément des terrains d'entente lorsque nos positions sont vraiment totalement divergentes. Et voilà, c'est la politique internationale, c'est le jeu des puissances, et c'est ainsi. Lorsqu'on présente une résolution déférant le dossier syrien à la Cour pénale internationale et que deux pays mettent un nouveau veto, évidemment, on est frustré. Mais en même temps, on est diplomate, et dans ce métier, on apprend à gérer les frustrations. Ça fait partie de la vie quotidienne du diplomate, ces frustrations. Mais quand on regarde, la France a été à l'initiative sur la question des enfants soldats depuis une dizaine d'années. Le Conseil de sécurité s'est vraiment penché sur cette question, et le nombre d'enfants soldats qui ont été démobilisés grâce à cette action, entre autres, en liaison avec l'UNICEF, etc., est assez impressionnant, en dizaines de milliers. Donc ça, ça fait partie des motifs de satisfaction, d'espoir, et qui nous permettent d'avancer.
Le Conseil de sécurité, aujourd'hui, il est de plus en plus critiqué, de plus en plus contesté. D'abord parce qu'il n'est absolument plus représentatif du monde tel qu'il est aujourd'hui au XXIe siècle, avec ses membres permanents qui datent plutôt de la guerre froide. Et puis ensuite, il est contesté à cause de ce fameux droit de veto qu'ont les cinq membres permanents, mais qui leur sert surtout à défendre leurs intérêts. Depuis 2011, par exemple, la Russie l'a utilisé 3 ou 4 fois, ce veto, pour empêcher toute intervention en Syrie. La Chine a fait de même pour protéger la Birmanie ou le Zimbabwe. Les États-Unis, c'est une 20aine de vétos ces dernières décennies pour protéger Israël. Et puis la France et le Royaume-Uni ont fait à peu près la même chose quand il s'est agi de défendre ou de protéger leurs anciennes colonies, par exemple le Maroc ou la Namibie. Depuis 20 ans, évidemment, il est question de réformer ce Conseil de sécurité, d'élargir sa composition avec plus de pays. Mais évidemment, quel pays, combien de pays, avec quel pouvoir, est-ce qu'on leur donne ou pas un droit de veto? Du coup, ça n'avance pas, ça fait 20 ans que ça dure. Alors la France est en train d'essayer de pousser pour une espèce de réforme alternative qui concernerait uniquement le droit de veto et pas l'ensemble du Conseil de sécurité. Pour en parler, on est en train d'aller à la mission française à l'ONU, c'est-à-dire l'ambassade de France. On va retrouver Alem Garbi, c'est une diplomate française qui est spécialisée justement dans cette réforme.
I have an appointment with the French mission.
What's your name?
Colly. C-O-L-L-Y.
Israeli? Oh, 44.
Thank you.
Bonjour, madame. Aurélien Colly, France Inter.
Enchanté.
Voilà. Je vous suis?
Ouais. Effectivement, face à la paralysie du Conseil de sécurité et notamment à travers le dossier syrien, la France a décidé de présenter une initiative. Les 5 membres permanents s'engageraient volontairement à réduire leur usage du veto dans le cadre de crimes de masse, crimes contre l'humanité, les crimes de génocide, les crimes de guerre. Donc cette démarche serait une démarche volontaire qui n'exige pas la réforme de la Charte des Nations Unies et qui permettrait de répondre à la paralysie du Conseil de sécurité.
Alors pour l'instant, c'est une belle initiative, mais qui ne reçoit pas forcément un écho très favorable de tous les membres du Conseil.
La France a tenu des consultations avec de nombreux pays des Nations Unies, a tenu également des discussions avec la société civile. Et on sent un soutien vraiment très large de la part de ces États membres et de la société civile à notre initiative, ce qui nous encourage vraiment à continuer nos discussions en espérant que nous puissions arriver à un accord très rapidement.
Vous le sentez ou pas ? Vous, hein, pas la France.
Les discussions, effectivement, ne sont pas aisées puisque vous connaissez les réticences de la Russie et de la Chine. Avec du travail de conviction, avec le soutien des États membres et de la société civile, on peut faire évoluer les choses finalement.
Retour au siège de l'ONU, devant, il y a toujours des manifestations. Aujourd'hui, c'est des opposants chinois. Il y a quelques jours, c'était des Nigérians contre la secte Boko Haram. Et il y a quelques semaines, des moines birmans. Nous, on monte dans le gratte-ciel du secrétariat. On va au Noon Briefing. C'est le point de presse quotidien du porte-parole du secrétaire général Ban Ki-moon.
Good afternoon. I will start off with a statement from the Secretary General on the arms trade treaty in the Secretary General's.
Il y a une vingtaine de journalistes dans la salle en ce moment. Ce sont des correspondants à l'ONU qui sont là en fait en permanence. Ils sont à peu près 200 en tout, venus du monde entier. Certains ont des bureaux ici dans le bâtiment, comme Karim Lebourg qui travaille pour RFI.
On est dans mon bureau à l'ONU, au troisième étage de ce bâtiment, qui est la grande tour de verre du siège de l'ONU. On a une belle vue sur la première avenue de New York. On a emménagé ici, en fait, il y a un peu plus d'un an, parce qu'il y a eu de grandes rénovations au siège de l'ONU. Ça a coûté 2 milliards de dollars. Alors qu'on a emménagé ici, je vais vous montrer quelque chose. Ça, c'est les stores. Au moment où on a emménagé, quand on actionnait les stores de la fenêtre, ça ouvrait les stores dans le bureau du voisin pour 2 milliards de dollars donc, de rénovation. Mais finalement, ça a été réparé et maintenant tout marche bien. Vous voyez, c'est assez neuf. On a une jolie vue, on a une télévision branchée sur les chaînes américaines et puis on a aussi un accès direct au circuit interne de l'ONU avec les réunions du Conseil de sécurité, de l'Assemblée générale, etc.
Vous suivez tout d'ici ou de votre bureau ?
Je vais vous faire une confidence, Aurélien. C'est parfois extrêmement ennuyeux. C'est même souvent extrêmement ennuyeux. Donc on ne les suit pas toutes, non.
Pourquoi c'est ennuyeux ? Parce que c'est très formel et que finalement les choses ne se décident pas au moment où on est autour de la table, mais avant ou après et en coulisses ?
Mais l'ONU, c'est d'une formalité mortelle. C'est un environnement diplomatique où les gens font très attention à ce qu'ils disent. Les diplomates sont d'une prudence de sioux. C'est parfois extrêmement difficile pour les journalistes. Mais heureusement, on a aussi des diplomates qui nous parlent en off. Et c'est là, en fait, qu'on apprend le plus de choses.
Vous vous posez la question du sens de votre travail, de ce que vous faites ici, si vous avez aussi ce regard sur l'organisation, une énorme machine qui ne fonctionne pas ou qui fonctionne mal ?
L'ONU, c'est un miroir parfait des relations internationales. Toutes les crises mondiales arrivent à un moment à l'ONU. On a une espèce de vision globale du monde et des grandes crises du monde qu'on a nulle part ailleurs. On découvre les rapports de force, comment certains pays décident de céder sur certains points parce qu'ils veulent obtenir quelque chose sur un autre dossier. Quelle est la vraie influence de la puissance américaine dans ces négociations ? Quelle est l'influence de la France, qui a beaucoup d'influence à l'ONU en raison de son siège au Conseil de sécurité. Donc c'est un endroit qui est vraiment extrêmement intéressant.
Et en même temps, le grand public critique souvent l'inefficacité de l'ONU, le manque de... que c'est une machine qui ne fonctionne pas. Et en fait, vous expliquez que ça fonctionne, qu'il y a un travail quotidien.
Je pense que le grand public ne comprend peut-être pas que l'ONU, ce n'est jamais que l'addition de tous ses États membres. 193 États membres, 5 membres permanents au Conseil de sécurité qui ont une influence disproportionnée, et que sans ces États membres, l'ONU ne peut rien faire. S'il y a une opposition de la Russie ou de la Chine avec les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne, par exemple, comme c'est le cas sur la Syrie, comme c'est le cas sur l'Ukraine, comme c'est le cas sur beaucoup d'autres sujets, l'ONU est bloquée.
Est-ce que vous avez quand même l'impression que c'est une organisation qui est utile ? Vous voyez le balai des diplomates, on sait que ces gens sont quand même assez bien payés, que tous les fonctionnaires ici sont quand même... une vie plutôt tranquille à New York, c'est quand même pas le pire des endroits.
Ah, des fois, j'aimerais bien avoir le salaire de fonctionnaire onusien, effectivement. L'ex-ambassadeur américain John Bolton avait dit un jour que si on faisait disparaître, je crois, 20 étages du bâtiment de l'ONU, ça changerait absolument rien sur les relations internationales. C'est pas faux. L'ONU, c'est effectivement la conjugaison de 193 bureaucraties dans le monde. C'est une bureaucratie qui est extrêmement lourde, extrêmement fastidieuse, désespérante parfois, parce qu'il y a une inertie, parce qu'il y a une inaction. Et en même temps, l'ONU est irremplaçable. L'ONU est irremplaçable parce que c'est le seul endroit dans le monde où tous les pays de la planète peuvent avoir une voix. Le simple fait qu'ils puissent se parler, qu'il y ait une diplomatie qui soit en action à ce moment-là, c'est quelque chose, à mon avis, d'irremplaçable. Donc oui, si l'ONU n'existait pas, il faudrait l'inventer de toute façon.
En montée.
Going up.
Pour certains, l'ONU serait tout aussi efficace en enlevant une vingtaine d'étages de ce gratte-ciel du secrétariat. Alors c'est peut-être pas entre le 34 et le 36e étage qu'il faudrait couper, puisque c'est là que se situe le département des opérations de maintien de la paix, les célèbres casques bleus.
35e étage, 35th
Dorian Lacombe, je suis conseiller de presse ici au département des opérations de maintien de la paix et nous sommes actuellement au 35e étage du secrétariat des Nations Unies, donc la tour vitrée qui est au bord de la East River à New York pour tous ceux qui sont déjà venus en ville. Donc nous avons actuellement 16 opérations dans le monde. Nous avons plus ou moins 500 personnes qui travaillent pour ce département au sein du secrétariat des Nations Unies et c'est d'ici que s'est fait toute la coordination au niveau mondial.
Alors vous avez à peu près 500 personnes qui travaillent ici et qui gèrent à peu près combien de personnes déployées sur le terrain ?
C'est environ 120 à 125 000 personnes, desquelles 90 000 sont des militaires et environ 16 000, 18 000 des policiers et environ une douzaine de milliers de civils. Car on entend par civil non seulement le personnel administratif, mais aussi ceux qui s'occupent des élections, du reclassement des personnes, de l'observation des droits de l'homme. C'est-à-dire il y a beaucoup de fonctions différentes dans nos missions, c'est pour ça.
Alors quand on a autant de gens déployés sur le terrain, j'imagine qu'ici ça ne s'arrête jamais. En permanence, on reste au courant, au contact de toutes les missions, de tout ce qui se passe.
En effet, nous avons ici au secrétariat une cellule de veille. C'est une salle où se trouvent des personnes qui travaillent 24 heures sur 24, qui suivent tout ce qui se passe au niveau de l'actualité dans les pays, et ce qui nous permet de travailler la journée en avant en étant déjà au fait de ce qui se passe et prévoir les cours, en fait.
Alors, il y a une personne spécifique qu'on va rencontrer qui dirige cette partie-là ?
Voilà, c'est Kazumi Ogawa, qui est la directrice du centre, qui, je pense, sera très utile pour expliquer comment l'information est relayée au siège des Nations Unies à New York par tous les membres de la famille des Nations Unies. Voilà, et allons-y.
Ah oui, c'est grand. Je m'attendais à une petite salle.
Non,
une petite salle.
Ça, c'est, vous expliquer.
Hello.
Hi. Hi.
Nice to meet you.
Aurélien
Colli.
Nice
This is the 24/7 part of the operation of the center.
C'est notre centre de veille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Nous avons trois sections pour les pays où il y a des missions de maintien de la paix, une quatrième pour les autres pays, comme par exemple l'Irak, où l'ONU a une mission politique. On récupère et on compile des informations qui viennent directement de nos collègues sur le terrain.
Qu'est-ce que vous faites avec toute cette information qui arrive ?
Nous produisons quotidiennement un document récapitulatif pour le secrétaire général qui lui donne une vision globale de la situation. Si quelque chose se produit dans le monde qui représente une urgence pour l'ONU, on a aussi une procédure pour alerter les responsables ou alors on décroche le téléphone si c'est vraiment nécessaire. En ce moment, par exemple, il y a une crise au Burkina Faso. Alors, on n'a pas de casque bleu là-bas, mais c'est quand même une source de préoccupation pour l'ONU. Donc, on fait suivre et on fait deux rapports par semaine demandes sur la situation.
Vous suivez en fait la situation dans tous les pays du monde pour anticiper des crises.
D'une certaine manière, oui, notre force, ce sont nos sources d'informations propres. Donc si on est préoccupé par ce qui se passe en Égypte ou au Bangladesh ou en Ukraine, par exemple, on peut assurer une veille avec des rapports qui remontent du terrain.
Ces opérations de maintien de la paix, c'est le Conseil de sécurité qui les crée et qui leur donne plus ou moins de pouvoir. Elles sont financées par des contributions volontaires des États qui fournissent aussi les hommes. Alors il y a les succès comme la Côte d'Ivoire ou le Timor, mais il y a aussi des échecs, beaucoup d'échecs. La Bosnie ou plus récemment Haïti. Celui qui met son nez là-dedans, c'est Matthew Lee. Il est journaliste américain. Il tient un blog qui s'appelle Inner City Press et c'est vraiment la bête noire des diplomates et des responsables de l'ONU. Certains ont même essayé de lui faire retirer son accréditation.
Dans une démocratie, tous les partis ont une opposition. Tout le monde est soumis à la critique et s'y habitue. Le problème avec l'ONU, c'est que même les pays qui financent le budget ne contrôlent pas. Il y a très peu de surveillance.
Vous avez aussi eu des problèmes à propos de l'arrivée du choléra à Haïti par l'intermédiaire du contingent du Bangladesh qui était déployé là-bas.
Oui, pour moi, c'est l'une des affaires les plus graves sous la direction de Ban Ki-moon. L'ONU a envoyé à Haïti un contingent de casques bleus népalais sans faire de dépistage du choléra. Mais en plus, leur système sanitaire était tellement mauvais que leurs eaux usées partaient dans la rivière. Le résultat, c'est que 8000 personnes sont mortes. Bien sûr, l'ONU n'avait pas l'intention de faire ça. Mais le problème avec l'ONU, c'est que si Coca-Cola avait tué 8000 personnes avec le choléra en Haïti, Coca-Cola aurait payé des milliards de dollars à titre punitif et aussi parce que des familles ont perdu leur source de revenus, parce que les parents sont morts. Mais l'ONU n'a pas payé un centime. Ils ont dit, nous allons lever des fonds pour améliorer le système sanitaire. Non, l'ONU parle de lutte contre l'impunité, mais ne se l'applique pas. Et quand on les interroge, ils répondent, on n'a rien à ajouter. Parce qu'ils pensent qu'avec le temps qui passe, les gens finiront par arrêter de poser des questions. Oui, je crois aussi. Le problème, c'est qu'une entreprise privée, elle évalue sa communication et la change, si ce n'est pas efficace. Mais à l'ONU, là encore, personne ne rend des comptes. D'ailleurs, l'attribution des postes, c'est aussi du clientélisme. Le critère, ce n'est pas qui est le meilleur, quel pays a le meilleur candidat pour ce poste. Et ce problème est valable pour les opérations de maintien de la paix, pour les affaires politiques, pour les affaires humanitaires. Donc, au final, on se retrouve avec un système où même les succès de l'ONU, ils n'en parlent pas. Soit parce qu'ils sont incompétents, soit parce qu'ils ont peur de sortir du rang. Et puis il y a aussi une espèce de culte de la personnalité. 80% des communiqués qui sortent concernent les pensées et les émotions du secrétaire général Ban Ki-moon. Moi, ça ne m'intéresse pas. En fait, l'ONU prétend être une organisation qu'elle n'est pas. Je crois que sa fonction réelle, c'est de faire croire qu'il y a un système juridique international. Mais ce n'est pas vrai quand 5 puissances posent des règles qu'elles ne respectent pas elles-mêmes. L'ONU peut faire de bonnes choses, comme en Guinée-Bissau. Sur les crises les plus graves, comme le Proche-Orient, le nucléaire nord-coréen, l'ONU est inefficace. Alors, qui va contrôler l'ONU? Qui va dire, vous avez fait n'importe quoi avec le choléra à Haïti? Même les États-Unis ne critiquent pas. Si vous croyez que vous allez résoudre les problèmes de la planète avec l'ONU, il va falloir améliorer l'organisation, qu'elle apprenne à rendre des comptes, malgré cette mentalité qui veut que celui qui aime l'ONU ne la critique pas.
On a quitté le siège de l'ONU, on est en train de se rapprocher de l'Empire State Building. où il y a le siège de Human Rights Watch, l'organisation non gouvernementale. On a entendu des diplomates parler de l'ONU, des journalistes, des employés, des responsables. On n'a pas encore entendu en revanche les ONG, et pourtant elles jouent un rôle de plus en plus important au sein de l'ONU parce qu'elles représentent la société civile. Et même, pour être très honnête, c'est peut-être le vrai futur contre-pouvoir qui pourrait forcer l'ONU à changer, à se réformer. On a rendez-vous avec un ancien journaliste qui couvrait l'ONU, il s'appelle Philippe Bolopion, et aujourd'hui, c'est le représentant de Human Rights Watch à l'ONU.
Mon travail, c'est de faire du lobbying en faveur des droits de l'homme au sein de l'ONU, c'est-à-dire de pousser l'organisation à prendre des décisions qui, de notre point de vue, s'imposent, comme par exemple renvoyer le dossier syrien devant la Cour pénale internationale, sanctionner les gens qui commettent des violations graves des droits de l'homme en Centrafrique, imposer un embargo sur les armes au Soudan du Sud, ce genre de mesures. Comme beaucoup d'ONG qui sont accréditées auprès de l'ONU, on a un pass, on a le droit de rentrer dans l'ONU, de pouvoir y rencontrer des gens, mais évidemment les ONG n'ont pas le statut des États au sein de l'organisation, et donc pour faire entendre notre voix, souvent il faut se battre. Il faut utiliser les leviers qui sont à notre disposition, comme par exemple la presse, faire des appels directement auprès de l'opinion publique. Et je pense que pour être entendu à l'ONU, il faut d'une certaine manière se faire entendre.
Est-ce que dans ce combat quotidien, pour faire entendre la voix des ONG, donc aussi de la société civile, c'est pas un peu frustrant d'être face à une telle machine ?
C'est très difficile pour une organisation de défense des droits de l'homme de se faire entendre à l'ONU, qui est dominée par les États, et les États font avancer leur intérêt national. Il n'y a qu'à prendre le dossier syrien au Conseil de sécurité où tout est bloqué. Et malheureusement, dans une situation comme celle-là, nos moyens d'action sont très limités.
Il y a quand même des succès quand vous faites le point un petit peu sur les dernières années, le travail que vous avez fait.
Malheureusement, dans notre domaine, la défense des droits de l'homme, il n'y a pas beaucoup de success stories sur lesquelles on puisse se reposer, mais je crois qu'on fait une réelle différence. Par exemple, sur le dossier de la Centrafrique, grâce au travail d'ONG comme la nôtre, le Conseil de sécurité a fini par déployer une opération de maintien de la paix de l'ONU en Centrafrique qui a sans doute permis d'éviter le pire, même si, évidemment, la situation est très très loin d'être idyllique aujourd'hui en Centrafrique.
Vous avez le sentiment que maintenant on accepte au sein de l'ONU que ce n'est plus uniquement une organisation d'État, mais qu'il y a aussi une part de la société civile qui doit être représentée via notamment les ONG ?
Je pense que depuis quelques années, il y a eu une réflexion au sein de l'ONU sur le poids de la société civile, sur le rôle que doivent jouer les droits de l'homme dans les relations internationales. Et je pense qu'il y a un réel effort pour essayer de s'ouvrir un peu au monde des ONG qui aussi souvent apporte un éclairage que l'ONU n'a pas et qui, je pense, va sans doute aider l'organisation à ne plus détourner le regard quand elle fait face à des violations massives des droits de l'homme.
Il y a souvent des critiques qui sont portées à l'égard de l'ONU. Il manque peut-être un peu plus de contrôle sur le fonctionnement de l'ONU.
Effectivement, l'ONU devrait rendre des comptes. Elle ne peut pas tolérer quand des casques bleus commettent des viols dans des pays en crise, quand des responsables onusiens détournent de l'argent, quand de hauts responsables détournent le regard face à des violations massives des droits de l'homme. Elle a des comptes à rendre. Il en va de sa crédibilité. C'est une organisation malheureusement d'État. Mais la charte de l'ONU est faite pour les peuples du monde entier. C'est à eux que l'organisation devrait rendre des comptes.
Vous gardez de l'espoir face à cette organisation et à son travail quotidien ?
Évidemment, il faut garder de l'espoir parce qu'il n'y a pas de solution de remplacement. L'organisation, elle peut être critiquée, mais elle est aussi irremplaçable et il faut l'améliorer au lieu d'essayer de la descendre.
Fin de la journée, fin de la semaine, on est bien revenu au siège de l'ONU. Mais c'est vendredi et comme tous les vendredis, eh bien le bar de l'ONU, le Delegates Lounge, a pris des allures de club branché new-yorkais. Et c'est avec Eric, la quarantaine, qu'on clôt cette journée au siège des Nations Unies à New York.
Je suis journaliste, réalisateur de documentaires en France. Je viens travailler aux Nations Unies pour l'Assemblée Générale depuis une petite vingtaine d'années.
Donc tous les ans, comme ça, au moment du mois de septembre, octobre, jusqu'à la mi-novembre à peu près, au moment
des gros travaux de l'Assemblée Générale, vous venez donner un coup de main ?
Oui, au moment de la fin de l'été indien à New York et du début de l'hiver.
Alors la particularité de ces deux mois de forte activité en octobre-novembre, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui passe au siège de l'ONU et qu'il y a ces soirées où on se rencontre ce soir, qui ont lieu tous les vendredis soirs. C'est la détente, un peu de musique, pas mal de gens, parce que c'est finalement assez prestigieux, assez connu, ces soirées à l'ONU.
Oui, alors je ne sais pas si elles sont très connues. Ce qui est intéressant en tous les cas, c'est de voir le contraste où dans la journée, un petit peu comme à la buvette de l'Assemblée nationale, on voit des délégués très bien habillés, des émissaires s'asseoir. Et c'est là où se nouent un petit peu les relations entre les différentes délégations. On voit que ça négocie autour d'une tasse de café. On plante un petit drapeau sur la table indiquant le pays. Et c'est là où on va recevoir les gens. Et soudain, le vendredi soir, dans cette espèce de nouvelle tradition, on voit arriver toutes les plus jolies déléguées apprêtées, des garçons aussi, ce qui soudain change un petit peu de stature et deviennent des beaux gosses, se réunir autour d'une bière, d'un verre de vin, dans une espèce de brouhaha incessant, je pense que vous entendez derrière nous. Et là, je pense plus qu'il soit tellement question de relations internationales, il est question plutôt de relations interpersonnelles. Je ne dirais pas qu'on est là aussi pour ça, mais si, je dirais quand même.
Il y a un petit décalage quand même quand on voit l'importance des questions qui sont traitées à l'ONU, le travail qui s'y déroule quotidiennement, et puis cette espèce d'ambiance là, un peu festive, quoi. C'est quelque chose qui interroge quand même quand on vient comme ça, temporairement comme vous.
Non, ça n'interroge pas trop, parce que comme chacun sait, il y a toujours une chose et puis son contraire. Donc pour traiter bien des questions compliquées, il faut savoir aussi bien se détendre.
Et donc ça fait partie finalement du jeu.
Ça fait partie du jeu. Alors ce qui peut paraître poser un petit peu question parfois, c'est quand on va dans une délégation qui fait une fête, quand c'est un pays qui est, on va dire, pas un pays riche, on voit une espèce de débauche, d'alcool, etc. Même si on sait que la population parfois vit dans des conditions difficiles.
Alors dans la presse locale américaine, new-yorkaise notamment, il y a eu des articles un peu durs sur cette soirée. Vous, ça vous paraît excessif ?
Je pense qu'il y a aussi quelque chose qui se passe, c'est que finalement, avec le temps, on voit effectivement de plus en plus arriver de personnel extérieur, curieux. Je vois de moins en moins d'ambassadeurs au Delegates Lounge, au lounge des délégués.
De moins en moins de diplomates et de plus en plus de New-Yorkais.
Oui, pas mal de petits pique-assiettes. Non, pas des pique-assiettes, parce que quand même, il faut payer les consommations, elles sont assez chères.
Mais des gens qui viennent aussi pour le prestige du lieu.
Des gens qui viennent pour le prestige du lieu, plus précisément, ouais. Ou pour se placer, parce que c'est aussi un très bon endroit pour se placer.
Comment ça va se terminer, là, votre soirée ? Alors, vous allez finir votre verre et puis continuer à aller rencontrer des gens autour de vous, de pays différents, et puis après la fête à New York ?
Ouais, ben, moi, là, ce soir, je sais pas ce qui va se passer. C'est ce que j'aime à New York, c'est qu'on sait jamais ce qui va se passer.
L'ONU, à quoi ça sert ? C'était un reportage d'Aurélien Colli, mixage Éric Boisset. Pour poursuivre sur ce sujet ce matin, nous sommes avec Stéphane Dujarric, en ligne depuis New York. Stéphane Dujarric, vous êtes porte-parole du secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon. Bonjour.
Bonjour.
D'abord sur la critique de fond qu'on entend à plusieurs reprises dans le reportage, sur une certaine incapacité de l'ONU à prendre des décisions, à les imposer, les intérêts des grandes puissances qui prévalent. Comment y répondre ? Est-ce qu'il faut redonner plus de pouvoir à l'Assemblée générale face au Conseil de sécurité, faire entrer de nouveaux membres dans ce Conseil, revoir le droit de veto ?
Ce qui est vrai, c'est que les Nations Unies sont un reflet du monde dans lequel nous vivons actuellement. Mais le problème, c'est qu'une partie des structures de cette organisation ont été créées en 1945 et ont besoin d'évoluer. La réforme des Nations Unies a toujours été au calendrier de cette organisation et elle a été réformée, elle change. Mais il est vrai que la grande majorité des États membres trouvent qu'on a besoin d'une réforme du Conseil de sécurité pour avoir un Conseil de sécurité qui soit un reflet un peu plus réel du monde dans lequel nous vivons actuellement. Cette année, on espère que cette année, nous allons pouvoir trouver une solution, que les États membres vont pouvoir trouver une solution.
Une autre critique qu'on entend, c'est le coût de cette structure, une bureaucratie très lourde, coûteuse, avec des salaires parfois très élevés. Est-ce que ces coûts sont justifiés ?
Écoutez, je crois que cette critique est un peu injuste. Le budget des Nations Unies n'est pas beaucoup plus élevé que le budget des sapeurs-pompiers de New York ou de la police de New York. 5 milliards par an, C'est effectivement beaucoup d'argent, mais quand on regarde les activités des Nations Unies, les 100 000 casques bleus qui sont déployés à travers le monde, l'aide humanitaire que nos collègues sont en train de distribuer en ce moment même en Syrie, en Afrique, on n'a jamais vu autant de crises humanitaires. Je crois que le budget des Nations Unies n'est pas hors norme, si je puis dire. Mais nous sommes bien sûr très conscients que cet argent nous est donné par les États membres et nous devons être très attentifs à la façon dont elle est dépensée et qu'il y ait le moins de gâchis possible dans ce budget qui nous est donné.
Alors, une dernière critique qu'on entend dans le reportage, c'est que l'ONU n'est responsable finalement devant personne lorsqu'elle commet des erreurs, comme à Haïti par exemple. Est-ce que l'ONU peut parfois se montrer irresponsable ?
Écoutez, l'ONU est responsable, l'organisation est même responsable devant les États membres. L'histoire de l'ONU est remplie de succès, mais il y a aussi eu beaucoup d'épisodes qui ont été tragiques. On a vu ce qui s'est passé au Rwanda, ce qui s'est passé en Yougoslavie, dans d'autres endroits. Et je crois que ce qui est important, c'est que l'ONU prenne des leçons de ses erreurs. On l'a vu au Rwanda, on l'a vu en Yougoslavie, où maintenant on a des opérations de maintien de la paix qui sont beaucoup plus efficaces, qui répondent beaucoup plus aux besoins sur le terrain. C'est une organisation qui, je crois, contrairement à ce qu'on a pu entendre dire, est assez transparente. Et les débats sont ouverts. Et je crois que l'opinion publique et les États membres de l'ONU font toujours pression pour que nous restons dans le droit chemin. Mais bien sûr, nous ne sommes pas une organisation parfaite. Il y a souvent des erreurs, et souvent des erreurs effectivement tragiques.
Alors nous avons appelé ce reportage « L'ONU, à quoi ça sert ?» À votre avis, l'ONU aujourd'hui sert à quoi ?
Écoutez, elle sert à s'assurer que des millions de réfugiés à travers le monde soient nourris. Elle sert à l'aide humanitaire. Elle sert à maintenir la paix dans les différentes missions de maintien de la paix. Mais il y a aussi, bien sûr, tout le côté normatif des Nations Unies. Toutes ces organisations comme l'Organisation de l'Aviation Civile, l'Organisation Mondiale de la Santé et d'autres, qui s'assurent qu'il y ait des normes internationales qui permettent au pays d'avoir un commerce international, d'avoir un dialogue et de s'assurer qu'il y ait certaines normes que nous partageons. Je crois que le travail des Nations Unies sur les droits de l'homme est très important, mais bien sûr, l'efficacité des Nations Unies est liée aux États membres. Ce n'est pas les Nations Unies, le secrétaire général ne préside pas un gouvernement, je dirais, mondial. C'est une organisation des États membres. Et si tous les États membres sont unis pour soutenir le travail des Nations Unies, les Nations Unies fonctionnent et sont efficaces. Quand il y a des problèmes entre certains États membres, notamment au sein du Conseil de sécurité, notamment au sein des 5 membres permanents, on voit une paralysie des Nations Unies, comme on le voit sur la Syrie, sur la situation politique pour la Syrie et dans un certain sens sur l'Ukraine.
Merci Stéphane Dujarric d'avoir été avec nous depuis le siège de l'ONU à New York. Interception est réalisée par Anne Lioro, assistée de Stéphane Combe et Christine Kern. Dans quelques instants, le journal de 10h. Bonne semaine à tous et à dimanche prochain.